les dieux des religions, tous les mêmes? Quelle est votre réponse à cette question? Les dieux des religions, tous les mêmes?
Non.
Alors, beaucoup pensent que les dieux des différentes religions sont simplement des façons diverses de parler du même être supérieur. Cette idée part souvent d'un bon sentiment. Vouloir unir les croyances et promouvoir l'harmonie. Mais si l'on regarde de plus près, les différences sont frappantes. La nature, les attentes, les caractéristiques de ces dieux ou concepts spirituels varient largement d'une religion à l'autre. Certains croient en un dieu unique et personnel, tandis que d'autres rejettent totalement cette pensée et parlent d'une force impersonnelle ou d'énergie cosmique. Il y a aussi ceux qui vénèrent plusieurs dieux aux rôles variés. Ou encore, il y a des traditions qui refusent toute idée de divinité. Et là, ils sont un peu plus terre à terre, se concentrant sur la sagesse humaine, quête intérieure. Et on s'arrête là. Alors, les dieux des religions sont-ils vraiment les mêmes? Vous l'entendez déjà un peu ici, hein? J'ai déjà commencé à répondre. Mais si ce n'est pas le cas, j'aimerais qu'on regarde ce que la Bible en dit. Quel est le pourquoi selon la parole de Dieu? Quel est le pourquoi selon Dieu? Regardons ce que la Bible dit à ce sujet, en 1 Roi, chapitre 18, versets 20 à 40. Et voyez qu'on est dans 1 Roi depuis dimanche dernier, c'est parce que nous sommes dans une série de prédications qui s'intitule « Élie et la puissance de Dieu ». Et donc, nous continuons notre série de prédications et nous arrivons donc dans ce chapitre 18, nous étions dans le chapitre 17 dimanche dernier. Les dieux des religions, tous les mêmes? Non, parce que, premièrement, on préfère ce qui nous arrange à la vérité. On préfère ce qui nous arrange à la vérité. Je vous invite à lire les premiers versets là, versets 20 à 24. Achab, donc il est roi du peuple d'Israël. Achab envoya des messagers à tous les Israélites et il rassembla les prophètes sur le mont Carmel. Alors Élie, un prophète de Dieu, s'avança devant tout le peuple et s'écria « Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, alors ralliez-vous à lui. » Mais le peuple ne lui répondit pas un mot. Élie poursuivit, « Je suis le seul prophète de l'Éternel qui reste, et il y a 450 prophètes de Baal. Qu'on nous amène deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un d'eux, qu'ils le découpent, et qu'ils en disposent les morceaux sur le bois, mais sans y allumer le feu. Je ferai de même avec l'autre taureau. Je le placerai sur le bois et je n'y mettrai pas le feu. Puis vous invoquerez votre Dieu et moi, j'invoquerai l'Éternel. Le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. » Et tout le peuple répondit, « D'accord, c'est bien !» Voilà, on va s'arrêter déjà là. Dans ce passage, nous assistons, vous l'entendez, à un véritable défi entre le prophète Élie et les 450 prophètes de Baal. Notre cher Élie est un peu seul. Le roi Achab et le peuple sont partagés entre l'Éternel, le vrai Dieu, et Baal. Pour clarifier qui est le vrai Dieu, donc Élie organise un concours sur le mont Carmel. Donc, il y a une sorte de match là. entre Dieu, deux dieux, ok? À l'époque de cette histoire, les peuples anciens avaient souvent plusieurs dieux, chacun associé à un territoire. Le peuple d'Israël, quant à lui, adorait normalement un seul dieu, appelé Yahweh, l'Éternel, ce qui les distinguait des autres peuples, des autres nations. Cependant, Akab, le roi d'Israël, a fait une grosse bêtise, quelque chose de très mal aux yeux du vrai Dieu. Il a introduit et encouragé le peuple à adorer le dieu Baal. Il a épousé Jézabel, aïe aïe, la fille du roi de Sidon, qui était une fervente adoratrice de Baal. Sous son influence, Akab a construit un temple, carrément, construit un temple et un autel pour Baal à Samarie, la capitale du royaume d'Israël. Donc là, on est en plein centre et c'est le dieu Baal qui est censé être adoré. Et l'introduction donc de Baal en Israël a eu des conséquences graves, désastreuses, car cela a conduit le peuple à s'éloigner du vrai Dieu, l'Éternel, et à s'engager dans des pratiques idolâtres. Cela a provoqué la colère de Dieu parce que Dieu est saint. Et Dieu ne tolère aucun rival. En fait, Dieu est le seul Dieu. Et donc, dans sa colère, Dieu a conduit le peuple à un jugement sévère. La sécheresse pendant 3 ans. C'est énorme. Élie pose une question clé au peuple d'Israël au verset 21. Une question très importante pour nous. Combien de temps encore sauterez-vous des deux côtés? C'est un peu l'expression pour nous, être assis entre deux chaises. Élie reproche au peuple d'Israël d'hésiter entre le vrai et les faux dieux, cherchant à satisfaire leurs désirs plutôt qu'à connaître et servir le Dieu véritable. Leur cœur est divisé, partagé, et ils changent de Dieu selon leurs besoins. À l'époque, les peuples choisissaient leur Dieu pour répondre, c'est important de comprendre cela, pour répondre à des besoins immédiats. Comme Baal, pour la pluie, les récoltes. C'est intéressant d'avoir ce Dieu-là, puisque, voilà, si on l'a, il va nous aider dans cela. Et donc, leur culte à ce Dieu Baal n'était pas basé sur une relation avec ce Dieu, mais sur l'idée que prière, sacrifice garantissait des bénédictions de ce Dieu. Cela reflétait un désir de contrôler leur destin plutôt que de se soumettre vraiment à la volonté de Dieu. Et de même, ils recherchaient protection, par exemple, et prospérité avec des dieux comme Asherah. Donc, on le voit dans ce texte, on parle d'un dieu, mais il y en a d'autres que le peuple d'Israël pouvait introduire. Cela montre clairement leur manque de foi dans le Dieu véritable. Pire encore, au fond, cela manque leur manque de soumission à ce Dieu. Leur foi est intéressée, centrée sur leur désir immédiat. Alors, bonne question. À votre avis, est-ce que le vrai Dieu existe, est là pour nous servir? Être tout le temps à notre service? Répond-il à nos caprices dès que nous faisons quelque chose pour le pousser à agir? Peut-on vraiment découvrir le Dieu véritable en le réduisant à une image façonnée selon nos désirs? Je pense que vous connaissez la réponse. Le Dieu que nous présente la Bible n'est pas un moyen d'obtenir ce que l'on souhaite. Ce n'est pas une marionnette. Ce n'est pas quelqu'un que, tiens, il doit certainement être comme ça, donc il est comme ça. Non. Le Dieu de la Bible est un Dieu souverain qui demande fidélité et engagement. Pas un Dieu à notre image que l'on façonne selon nos besoins et nos désirs. N'est-ce pas une tendance humaine d'adopter des croyances qui nous rassurent ou qui servent nos désirs? Ne sommes-nous pas tous tentés de façonner un Dieu à notre image plutôt que de nous engager dans une véritable recherche du vrai Dieu. Aujourd'hui, dans le domaine de la foi et de la spiritualité, chacun trace son propre chemin. Certains se laissent porter par ce qui les apaise ou par leur intuition personnelle, tandis que d'autres suivent une religion par habitude, par tradition. Malheureusement, il y a plusieurs qui suivent leur une religion par obligation. Beaucoup. Et tout cela sans jamais questionner leur croyance. Il y a aussi ceux qui préfèrent rejeter toute forme de foi et qui s'orientent vers une vision matérialiste et athée. Et comme j'aime ce qu'un frère a dit, il faut beaucoup de foi pour être athée. Mais au fond, sommes-nous réellement prêts, avec sincérité et humilité, à nous décentrer de nous-mêmes pour chercher le Dieu véritable? Même si cela signifie ébranler nos certitudes les plus profondes. Dieu nous met au défi. Élie nous met au défi. Élie invite le peuple d'Israël à faire un choix clair. Car il est impossible de servir deux maîtres, deux dieux à la fois. C'est comme une personne qui a deux partenaires et qui choisit de se tourner vers l'un puis vers l'autre selon ses désirs, sans mariage. Cela est un manque de maturité. Cela n'est pas du tout adulte. Il est temps de faire un choix et de s'engager pleinement. Élie lance donc un défi pour le peuple d'Israël. Positionnez-vous. Choisissez le vrai Dieu et rejetez le faux, l'imposteur, sans pouvoir. Mes amis, aujourd'hui, Dieu nous appelle aussi à faire un choix. Suivre le vrai Dieu ou le Dieu qui nous arrange. Ce Dieu qui nous arrange peut être celui d'une religion, d'une spiritualité ou un Dieu moderne, comme l'argent, la réussite professionnelle, la reconnaissance sociale, les plaisirs, le contrôle de notre vie, l'apparence physique ou même certaines idéologies humaines. Autant de choses en lesquelles nous pouvons placer notre confiance en cherchant à répondre à nos désirs et à façonner notre avenir selon nos attentes. Attention à nous chrétiens. Attention à nous chrétiens. Il nous arrive, tout comme le peuple d'Israël, de tomber facilement dans l'idolâtrie. Nous avons mis notre foi en Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, mais sans nous en rendre compte, nous pouvons placer autre chose à la première place dans notre vie. Il est si facile de mettre notre confiance dans nos réussites, nos possessions, dans les plaisirs du monde. Attention. Attention. Mes amis, cherchons-nous vraiment le Dieu véritable? Là est la question. Deuxième point. Les dieux des religions tous les mêmes? Non, parce que les faux dieux sont impuissants et trompeurs. Nous arrivons maintenant au verset 25. Je vais les lire les 25 à 29, la suite. Élie se tourna vers les prophètes de Baal et leur dit, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Puis invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu au bois. On leur donna le taureau, et ils le prirent et le préparèrent. Puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'à midi, en répétant « Ô Baal, réponds-nous ! Ô Baal, réponds-nous ! Ô Baal, réponds-nous !» Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel qu'ils avaient dressé. En passant, quand ça dit sauter, c'est le même terme que ce que Élie avait dit au peuple d'Israël. Ils sautaient des deux côtés. Donc ils sont là à sauter autour de l'autel qu'ils avaient dressé. Vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit, criez plus fort! Puisqu'il est Dieu, il doit être plongé dans ses réflexions! Ou il a dû s'absenter, ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il, faut-il le réveiller? Les prophètes crièrent à tue-tête et se firent, selon leur coutume, des incisions dans la peau à coups d'épée et de lance, jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. Bah ! C'est moi qui ajoute. L'heure de midi était passée et ils demandèrent encore, ils demeurèrent encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Wow, ils ont passé la journée ou quoi ? Mais il n'y eut ni voix, même chose que tout à l'heure, ni réponse, ni aucune réaction. Fin de citation. Ça nous fait sourire, n'est-ce pas ? Et en même temps, c'est triste, en voyant ces prophètes qui essayent de tout faire, alors que ce Dieu n'existe pas en fait. Pourquoi Élie a-t-il choisi, une bonne question, pourquoi Élie a-t-il choisi ce défi précisément du feu venant du ciel? Eh bien parce que Baal est le dieu de la météo, donc de l'orage, de la foudre, et il aurait dû donc pouvoir enflammer l'autel sans difficulté. Donc Élie les amène sur un terrain facile. Si votre dieu est un dieu qui commande cela, ça va se faire, il n'y a pas de problème. Et saviez-vous que dans ce passage, nous assistons en fait à un deuxième défi. Souvent, on a l'impression que c'est le défi qui a été lancé au dieu Baal. Mais il y en avait un premier, vous vous rappelez, dimanche dernier ? Baal est censé être le dieu des tempêtes, la pluie. Et il est déjà impuissant face à la sécheresse. 3 ans de sécheresse, les amis. Dieu a permis cette sécheresse pour démontrer l'incapacité de Baal et affirmer sa souveraineté. Même après cela, Israël n'a pas rejeté Baal. Et c'est pour ça que Élie est poussé à organiser ce deuxième défi spécifique, spectaculaire. Et dans notre passage, les prophètes de Baal, vous avez vu, se démènent, crient, dansent, se mutilent, mais en vain. Et Élie se moque d'eux. Et quand il se moque, ça souligne que Baal n'est rien d'autre qu'une illusion, un faux dieu, incapable de répondre à leurs appels. J'aime ce psaume 135, dans les versets 15 à 17, où il est dit « Les idoles des autres peuples sont d'argent et d'or fabriqués par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Et pas le moindre souffle ne se trouve en leur bouche. » Rien n'est plus clair, n'est-ce pas ? À l'époque d'Élie, comme aujourd'hui, les gens plaçaient leur confiance dans des dieux qui promettaient des bénédictions, comme la santé, la richesse, la protection, etc. Mais ces dieux les ont déçus. Car seul le vrai Dieu agit véritablement. Cependant, certains me diront, « Mais Manu, ok, mais dans cette histoire, Baal n'a rien fait. » Pourtant, dans certaines religions ou mouvements spirituels, des miracles sont rapportés. J'en vois sur YouTube. La réponse, selon la Bible parle de Satan, le diable, qui cherche à tromper l'humanité pour nous éloigner du vrai Dieu. Et comment fait-il ? Il fait des miracles. Il accomplit des miracles, des événements extraordinaires pour induire en erreur. Et par exemple, on trouve ça dans 2 Thessaloniciens 2, versets 9 à 10, qui nous avertit d'un homme qui trompera les gens par des miracles. Je cite, « La venue de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de signes impressionnants et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour faire quoi ? Pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à quoi ? À l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. » L'amour de la vérité est tellement important. Ce passage met en lumière que ce qui semble miraculeux peut en réalité être un piège subtil pour nous éloigner du vrai Dieu. Ce qui montre que les miracles proviennent de Satan, c'est qu'il commence souvent par répondre à nos désirs, en nous offrant des plaisirs, dans le sens du poil, mais finit par causer le mal. Avec Satan, il y a mensonge. Il cache la vérité. Avec Satan, il y a manipulation. Il détourne l'attention du vrai Dieu. Avec Satan, il y a oppression et esclavage. Il crée la peur, la dépendance, l'illusion d'un pouvoir. Et enfin, il crée aussi l'opposition concernant Jésus-Christ, qui seul peut sauver. Mes amis, ce n'est pas parce qu'une religion produit des miracles qu'elle vient de Dieu. La Bible nous avertit. La véritable origine d'un miracle se reconnaît à ses fruits sur le long terme. Et si on devait juste poser la question, mais c'est quoi les signes qui viennent du vrai Dieu? La Bible nous révèle plusieurs choses. Le vrai Dieu transforme notre être intérieur, nous connecte à lui, nous rend semblables à Jésus-Christ. Progressivement, nous assure de la vie éternelle. Il y a une assurance que nous recevons par l'action de son esprit en nous. Il remplit notre cœur de joie, de paix et donne une espérance pleine de confiance en l'avenir. On pourrait continuer. Troisièmement, les dieux des religions, tous les mêmes, non parce que le vrai Dieu se révèle et répond et il libère. Un roi, donc, toujours le chapitre 18, et on va lire les derniers versets de cette histoire. Verset 30, « Alors Élie ordonna à tout le peuple, « Approchez-vous de moi !» Tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. À cet effet, il prit 12 pierres, une pour, intéressant, chacune des tribus des descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré « Tu t'appelleras Israël ». Donc notre cher Élie est très intentionnel dans ce qu'il fait. Verset 32, « Il rétablit avec ses pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une rigole capable de contenir une trentaine de litres. Puis il disposa des bûches de bois sur l'autel, dépeça le taureau, plaça les morceaux de viande sur le bois et ordonna « Remplissez 4 cruches d'eau et répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. » On fit ainsi. « Faites-le encore une fois » ordonna-t-il. Ils le firent. Une troisième fois ! Et ils le firent une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplit la rigole. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consomma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et réduisit en vapeur d'eau l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant « C'est l'Éternel qui est Dieu ! C'est l'Éternel qui est Dieu !» Fin de citation. Waouh ! Le contraste entre les prophètes de Baal et Élie est frappant. Les prophètes de Baal passent toute la journée à invoquer leur Dieu, mais rien ne se passe. En revanche, Élie répare l'autel, prie avec foi, et Dieu répond instantanément en envoyant le feu du ciel. Alors tout le peuple reconnaît que c'est l'Éternel qui est véritablement Dieu. Il n'y a ni tromperie, ni manipulation, juste la puissance et la vérité qui éclatent au grand jour. C'est ainsi que se révèle le vrai Dieu dans cette histoire. Mais aujourd'hui, comment Dieu se révèle-t-il ? Par des miracles comme le feu du ciel ? Dieu pourrait certainement le faire, n'est-ce pas ? Pour beaucoup de chrétiens, Dieu s'est révélé à travers des miracles, par le feu qui descend du ciel, par des guérisons, pardon, pas par le feu qui descend du ciel, mais plutôt par des guérisons, des manifestations, des réponses aux prières, comme ça a été le cas. Mais j'aimerais bien qu'on aille plus loin. Regardez aussi que, en fait, Dieu se révèle de différentes manières. Voici d'autres manières dont Dieu se révèle. Dieu révèle déjà son existence et sa grandeur à travers sa création. Ce qui devrait être suffisant pour nous pousser à nous approcher de lui. Et puis, Dieu se révèle à travers un livre. Pas n'importe quel livre. La Bible. Livre incroyable. Sa parole vivante. C'est le plus grand best-seller de tous les temps. Un livre imprégné de l'empreinte de Dieu. C'est incroyable de penser qu'un livre écrit par autant d'auteurs, 40 auteurs, différents, sur plus de 1600 ans, puisse raconter une histoire aussi parfaitement cohérente qui va de la création à la restauration finale. Et ce n'est pas tout. On pourrait parler de beaucoup de choses, mais juste à regarder les prophéties concernant Jésus. Plus de 300 prophéties concernant Jésus-Christ, faites entre 400 et 800 ans avant sa naissance, se sont réalisées avec des précisions, une précision stupéfiante. Il est inimaginable que ce livre ait pu survivre à toutes les attaques qu'il a subies sans l'intervention directe de Dieu. Un livre incroyable. Et aujourd'hui, ce livre continue à transformer des vies partout dans le monde. C'est tout simplement un chef-d'œuvre de Dieu lui-même. Un cadeau extraordinaire pour l'humanité. Mais la plus grande révélation de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce que Dieu a fait par Jésus contraste radicalement avec les autres religions. Dans les religions, on demande aux croyants de faire des sacrifices, de suivre des règles et de réaliser des rituels pour gagner la faveur des dieux, des divinités, accéder au paradis, à la vie éternelle, à la vie après la mort. Cela peut inclure des sacrifices physiques, des prières, des actes de piété, des engagements moraux. Cependant, la Bible dit qu'il est impossible d'atteindre Dieu ou le paradis par nos propres forces ou par des sacrifices. Car Dieu est parfait, saint, et nous sommes pécheurs, rebelles à Dieu, séparés de lui. À cause de nos fautes, il y a une rupture dans notre relation avec Dieu. Seul Jésus-Christ, par son sacrifice sur la croix, a réconcilié l'humanité avec Dieu. Nous ne pouvons rien faire, mais seul lui est capable de nous sauver. En d'autres termes, le salut et l'accès au paradis ne dépendent pas de ce qu'on fait pour plaire à Dieu, mais plutôt de ce que Christ a fait, de ce que Christ a accompli pour nous à la croix. Il est mort et il est ressuscité. Tel un peu le feu qui est tombé sur l'autel quand Élie avait préparé l'autel pour le sacrifice. Ce feu qui est tombé sur cet autel, montrant l'approbation de Dieu. Et ben ce feu de la colère de Dieu que nous méritons est tombé sur Jésus-Christ. Et le plus grand miracle, c'est qu'il n'est pas resté mort. Il est ressuscité. Mes amis, c'est en mettant toute notre confiance en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait pour nous que nous pouvons recevoir son pardon, sa présence et le paradis. Question, suis-je prêt à chercher le vrai Dieu, celui qui libère et transforme? Mes amis, Jésus-Christ, comme je l'ai dit, est la révélation ultime de Dieu. C'est par lui seul que l'accès de Dieu à Dieu est possible. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il le dit ainsi en Jean chapitre 14, verset 6. Jésus a dit ceci, « Je suis, moi, le chemin. Répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Jésus, vous l'entendez, offre un message exclusif, mais non excluant. Exclusif, mais non excluant. Parce que ce message est pour tous. C'est le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Jésus est le cadeau incroyable de Dieu à recevoir. Je vais maintenant conclure. Nous avons vu ce matin que les dieux des religions ne sont pas tous les mêmes. Et le texte qu'on a pris nous dit pourquoi. On préfère ce qui nous arrange à la vérité. La deuxième chose, les faux dieux sont impuissants. Et enfin, le vrai Dieu se révèle et répond, libère. Dieu n'est pas un concept religieux parmi d'autres, les amis. Il est vivant, puissant, unique. En tout cas, s'il n'était pas vivant, je ne serais pas là ce matin. J'étais parti pour faire n'importe quoi de ma vie. Il fallait vraiment un Dieu vivant pour me sauver, moi. Délinquant, j'allais le devenir. Aller en prison, j'allais certainement. Dans l'état que j'avais, dans la manière que j'avais commencé à grandir. Mais il fallait vraiment un Dieu vivant pour me sortir de là où j'étais. Comme Élie, les amis, appelons notre génération à choisir le vrai Dieu. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui hésitait entre plusieurs dieux, assis entre deux chaises. Faisons notre choix. Cherchons vraiment le Dieu véritable. Et ensuite, donnons-lui toute notre vie. Engageons-nous à le suivre sans réserve. Si vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus-Christ, sachez que Dieu vous appelle à venir à lui maintenant. Et cet appel de Dieu est urgent pour toi, pour moi. Si tu n'es pas, tu ne lui appartiens pas, c'est un danger pour ta vie. Parce que tu iras en enfer loin de sa présence. Tu as besoin de venir à lui. Peut-être, vous vous dites ce matin, c'est bien beau tout ça Manu, mais je ne suis pas vraiment prêt, je suis pas vraiment convaincu que Jésus est celui qui prétend être, que Jésus est Dieu venu sur terre pour nous sauver. Tout ça, ça me dépasse. Pas de problème. Ça me dépassait aussi. Et pourtant, je suis là aujourd'hui. Si c'est le cas pour toi, je t'encourage à poursuivre tes recherches. Mieux que cela, adresse-toi directement à Dieu et demande-lui de se révéler à toi. Cherche-le de tout ton cœur, pas par simple curiosité, mais sincèrement. Et ce n'est pas juste « révèle-toi à moi, puis j'attends, et puis ben, il ne s'est rien passé, Manu ». Mais cherche-le. La recherche, c'est prendre du temps pour chercher Dieu, continuer à l'appeler, peut-être venir à plusieurs fois à des cultes pour entendre parler de lui. Cherche-le de tout ton cœur. La Bible dit que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, il se laissera trouver. Je peux te le garantir, il le fera. Pour vous aider dans votre démarche, peut-être vous aimeriez que prier cette prière avec moi. Peut-être vous n'avez pas encore de conviction, mais avec cette prière, c'est peut-être le premier pas pour vous, pour approcher Dieu. Je vous invite à le faire avec moi, pour celles et ceux qui le souhaitent. Voilà, la prière va s'afficher. Et voilà, vous pouvez prendre cette prière déjà pour dire à Dieu, maintenant, je viens à toi pour mieux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Révèle-toi à moi. J'ai entendu que tu es venu en Jésus-Christ pour donner ta vie, afin de me pardonner, être présent avec moi, en moi, et m'offrir la vie éternelle. Ça paraît incroyable. Mais je veux y croire et me rapprocher de toi. Je te demande pardon pour mes péchés qui m'éloignent de toi. Merci de me purifier grâce à Jésus et de m'ouvrir l'accès à ta présence. Je te confie ma vie. Apprends-moi à te connaître et à te suivre chaque jour. Merci d'agir en moi dès maintenant. Amen. Je vais maintenant prier. Notre Dieu, tu connais le cœur de chacun ici. Je te prie pour ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, qui te découvrent, s'approchent de toi et qu'ils placent leur foi, leur confiance en Jésus et reçoivent ton pardon, ta présence, la vie éternelle. Et assure-les de ta présence en eux. Je te prie aussi pour nous, chrétiens, que nous soyons comme Élie, non partagés, ni hésitants, mais pleinement engagés dans notre relation avec toi. Aide-nous à être déterminés à te suivre, quoi qu'il en coûte, à te proclamer comme le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donne-nous le courage d'oser des prières audacieuses comme Élie dans nos relations pour que les gens autour de nous te voient agir et soient attirés à toi afin de recevoir ton pardon, expérimenter ton amour et ta présence pour l'éternité. Notre Dieu, sauve ce pays, sauve ce monde, agis puissamment à travers ton Église. Nous comptons sur ton amour et sur ta toute-puissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.